Comment donner quand vous n'avez rien? Comment donner si vous n'avez rien? Comment faire du bien sans un contact direct avec quelqu'un? Comment faire une différence dans la vie de quelqu'un quand vous êtes dépourvu de tout? Comment aimer sans que le récipient sache forcément le récipient? Comment aimer sans que la personne qui reçoit sache forcément que vous avez exercé l'amour, que la personne a été l'objet de votre amour? Et comment donner sans rien attendre en retour, sans attendre remerciement? Tout le monde peut donner. Et spécialement, tout le monde peut prier. C'est comme ça qu'on peut donner quand nous n'avons rien. Et nous sommes conscients, je pense, de l'importance de la prière, ce contact direct que nous avons avec Dieu. C'est un petit peu comme une corde de sécurité ou une corde de sauvetage ou un filon, ce qu'on appelle en français un filon de sauvetage entre Dieu, un filon de sauvetage entre Dieu et nous. C'est plus qu'une bouée de sauvetage, parce qu'une bouée de sauvetage, c'est quelque chose que vous jetez, provenance d'un bateau, pour que la personne l'attrape. Un filin de sauvetage, c'est quelque chose qui vous lie directement avec Dieu et qui vous permet de survivre littéralement, spirituellement. La prière, c'est un dialogue. Nous parlons avec Dieu. Et Dieu nous parle, bien sûr, quand nous étudions sa parole, mais ça nous permet de rester en vie spirituellement. Nous ne sommes pas seuls. Quand vous regardez la vie de David, pour David, Dieu était son berger. Et David avait une relation incroyablement forte avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu. David communiquait beaucoup. Si vous prenez votre concordance et vous regardez dans les psaumes, vous verrez le mot détresse, par exemple. Le mot détresse, vous le verrez une trentaine de fois dans votre concordance, probablement. Il y a plus que la moitié de ces références. Il est question de David qui utilise le mot détresse quand il parle à Dieu. Parce qu'il est dans la détresse, il est dans la difficulté, il parle à Dieu directement. Et il dit, par exemple, dans Psaume 25 et le verset 17, Psaume 25, verset 17, je ne m'y rapporte pas, il dit à Dieu, tire-moi de ma détresse. C'est une prière. Il priait à Dieu, il suppliait Dieu, parce qu'il avait besoin que Dieu intervienne dans sa vie. Parfois, il y a des couples qui se séparent parce qu'ils n'ont plus rien à se dire. Ils se séparent. Dans notre monde électronique, où tellement de choses passent par l'électronique, le contact reste indispensable. Le contact verbal, direct, cet échange, ce contact. Et avec Dieu, c'est essentiel. Parce que Dieu, contrairement aux êtres humains, est toujours disponible. Dieu écoute quelqu'un, quand la personne, bien sûr, sa vie plaît à Dieu, Dieu écoute quelqu'un, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, quel que soit l'endroit et quel que soit le laps de temps que la personne prie. Et la prière est comparée à de l'encens. C'est pas encore le sujet du sermon. Psaume 141, verset 2. Psaume 141 et le verset 2. Psaume 141 et le verset 2. C'est David encore une fois qui parle, il dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Et effectivement, la prière est comparée à l'encens. Dans Exode chapitre 30, il est beaucoup question de l'encens, la préparation de l'encens, cet encens qui était fabriqué pour être brûlé. Et on peut facilement faire plusieurs comparaisons entre l'encens et la prière. Juste pour le besoin de ce sermon, j'ai pris trois. Le premier, c'est que l'encens, dans Exode chapitre 30, toujours, si vous regardez à la maison, vous verrez qu'il fallait le réduire, cet encens, en poudre. Il fallait le réduire en poudre, c'est-à-dire que, pour faire la comparaison avec la prière, il faudrait que nos prières soient détaillées. Nous parlons de quelque chose et nous détaillons nos prières. Nous allons vraiment dans le vif du sujet, nous détaillons plusieurs aspects. Ça, c'est donc une comparaison qu'on peut faire avec la prière, c'est le fait de détailler nos prières. La deuxième comparaison que nous pourrions faire, c'est que cet encens était chauffé. Pour employer une expression dans Lévitique 16, pour la fête des expiations, nous lisons ceci, « Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que le nuée de parfum couvre le propitiatoire, pour que ça dégage tout son parfum. » Le nuée de parfum couvre le propitiatoire, quelque chose qui était agréable, ce que la Bible appelle un parfum odoriférant, ou un encensement aromatique. Et donc, il faudrait que nos prières, ça c'est le deuxième point, l'encens était chauffé. Et la comparaison, bien sûr, avec nos prières, c'est que nos prières ne doivent pas être fades, sans sel. C'est que nos prières doivent être faites avec ferveur, avec chaleur, faites avec le cœur, avec du sentiment et avec du zèle. Deuxième comparaison. Et la troisième comparaison, ou une troisième comparaison que nous pouvons effectuer, quand il s'agit de la comparaison entre l'encens et la prière, c'est que, si vous regardez encore une fois Exode chapitre 30, je prends pas le temps maintenant, mais si vous regardez Exode chapitre 30, vous verrez qu'il fallait préparer le parfum, il fallait préparer l'encens, et il y avait plusieurs composants qui faisaient partie, et la Bible précise que c'est ces différents composants étaient en partie égales. Il y avait donc un mélange d'ingrédients. La prière, pas uniquement est-ce que ça doit être détaillé, mais ça doit être varié. Il y a différents sujets. On ne reste pas toujours avec le même sujet quand nous parlons tous les jours. Il y a un des ingrédients, et là nous arrivons au sujet du sermon. Un des ingrédients de la prière, ce sont des prières d'intercession. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler sur la puissance de la prière d'intercession. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant et c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique et pour la personne et pour nous. Parce qu'on donne. Et on donne souvent sans que la personne sache. Si vous regardez Moïse, et vous regardez le caractère de Moïse, Moïse était quelqu'un très, très engagé. Très engagé pour le bien de son peuple. Il a choisi son peuple plutôt que la gloire d'Égypte. Pour citer Hébreux chapitre 11, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Donc il a choisi son peuple, il a souffert avec son peuple, et c'est quelqu'un qui, donc renoncé à ses gloires de l'Égypte, lui qui avait beaucoup de gloire, et qui se sacrifiait sans compter. Vous vous rappelez l'incident, c'était avec les cailles, dans Nombre chapitre 11, où Moïse parlait à Dieu, il dit qu'il portait le peuple. Et c'était trop à ce moment-là pour lui. Mais c'était un homme très désintéressé, qui donnait, qui intercédait sans cesse. Exode chapitre 32, et le verset 7. Exode chapitre 32, et le verset 7. Exode, chapitre 32, et le verset 7. L'Éternel parle à Moïse, « Va descendre, car ton peuple, j'ai toujours trouvé ça intéressant comme Dieu parle à Moïse ici, car ton peuple, parce qu'ils avaient péché, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. » Donc, ça le vaut d'or. Verset 8, « Ils se sont promptement écartés de la voie que je l'avais prescrite, ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui ont offert des sacrifices, ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, c'est un moment historique ici, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Première fois que Dieu dit qu'il va détruire Israël à cause de leur péché. Et un homme certainement plus petit que Moïse aurait peut-être laissé Dieu intervenir. Moïse n'était pas un homme de cette trempe, de cette petitesse. Verset 11, Moïse implora l'Éternel, son Dieu. Donc, il intervient, il intercède pour son peuple. Et le langage était intéressant ici, parce qu'il dit dans le verset 11, Moïse implora. C'est fait avec son cœur, c'est fait avec tout ce qu'il a. Il aurait pu, lui, être à l'origine de notre nation. Non, il fait pas ça. Il implore l'Éternel, son Dieu. Il dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Et il évoque donc ce que Dieu a fait. Le mot implorer, du reste, est un mot intéressant parce que c'est le même mot que vous trouvez, que la Bible utilise pour Manassé. Vous savez que Manassé a été emmené en Babylone. Et pour citer le verset, je ne m'y rapporte pas, mais dans 2 Chroniques chapitre 33, nous lisons, lorsqu'il fut menacé dans la détresse, il était en captivité, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément. Si je vous cite ce verset, c'est pour vous donner une idée de la force du mot. Mais vous imaginez bien que menacé en captivité, en chaîne, il allait vraiment implorer. Ça allait vraiment venir du cœur. Et c'est le même mot que ce que nous trouvons ici dans Exode chapitre 32. Où Moïse implora Dieu. Alors, verset 12. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour le malheur qui les a fait sortir, c'est pour le tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessous la terre. Reviens de l'ardent de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Il supplie Dieu, il demande que Dieu change d'avis. Verset 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. L'Éternel se laissait fléchir et exauça ses supplications. Il donne des pourquoi, il demande à Dieu d'appeler, il fait appel à Dieu de changer d'avis, il rappelle les promesses de Dieu, il plaide avec Dieu, parce qu'il a le cœur à vouloir faire du bien pour son peuple, et il a même intercédé pour Aaron à ce moment-là, parce que Dieu a voulu faire aussi mourir Aaron. Chapitre 32, toujours, verset 30. Chapitre 32, le verset 30. Suite des événements. Verset 30. Mais pas suite de l'intervention de Moïse. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Il était donc très réaliste. C'était vrai. Il n'a pas cherché à cacher les choses de Dieu. Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Et Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or, pardonne maintenant leur péché, Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Réaliste, mais il voulait tellement que Dieu pardonne à Israël qu'il était disposé à se sacrifier à ce point-là et de ne pas avoir la vie éternelle. Sinon, verset 32, « Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit, le livre de vie. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant conduire le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange, marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. » Vous trouvez le même sentiment chez Paul, où il a dit qu'il voulait être anathème, c'est-à-dire séparé de Christ pour ses frères. Il était disposé à se donner à ce point-là que lui-même aurait été donc séparé du Christ. Et c'était un sentiment qui était plus fort que tout. Psaume 106, verset 23. Pour vous montrer la puissance de la prière d'intercession. Et ici, on le voit très clairement où Dieu a changé d'avis, où Dieu se repentit, entre guillemets. Dieu, bien sûr, reste parfait, mais Dieu se repentit dans le sens qu'il a changé d'avis de ce qu'il allait faire, comme il a se comporté vis-à-vis des enfants d'Israël. Psaume 106, verset 23. Psaume 106, c'est le verset 23. Et il parlait, je saute au milieu d'un contexte ici. Et il parlait de les exterminer, Dieu. Il parlait de les exterminer des enfants d'Israël. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Là aussi, ça vous montre la portée d'une prière d'intercession. La brèche, c'est quoi? La brèche dans un mur, c'est là où il y a le point faible. C'est là que l'armée qui attaque s'engouffre. S'il veut prendre la ville. C'est le point le plus faible. Et ici, ça a changé l'histoire. Ézéchiel chapitre 22. Du reste, c'est ce que Dieu dit dans Ézéchiel, qui cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Dieu cherche un homme engagé pour le bien. Engagé au point de vouloir vraiment implorer, de faire une prière d'intercession pour que Dieu change. Ézéchiel 22 et le verset 30. Contexte prophétique. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui s'y tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. C'est ce que Moïse a fait en faveur du pays, en faveur de son peuple. C'est ça, une prière d'intercession. C'est se tenir devant Dieu en faveur de quelqu'un. Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Quelqu'un qui n'était pas assez responsable à ce moment-là pour le faire. Verset 31. Je répondrai sur eux ma fureur, parce qu'il n'y avait personne qui se tienne à la brèche. Je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Et Moïse, effectivement, intervenait beaucoup. À maintes reprises, si vous regardez surtout le livre de Nombres, vous verrez à maintes reprises que Moïse prie, que Moïse intercède et que Moïse intervient pour son peuple. Vous avez, on a peut-être moins familier avec ceci, à Tabera, dans Nombres chapitre 11, où il est intervenu, justement, parce que Dieu commençait à dévorer l'extrémité du camp. Vous avez Nombres chapitre 12, ça c'était Nombres chapitre 11, je me rapporte à Nombres chapitre 12, quelque chose avec lequel nous sommes peut-être plus familiers, c'est quand Aaron et Myriam ont critiqué Moïse et que Myriam, Dieu l'a affligé de la lèpre. Verset 13. Nombres chapitre 12 et le verset 13. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Là, de nouveau, il criait à Dieu, il suppliait Dieu Et Dieu est intervenu, et Dieu l'a guéri. Bon, il fallait qu'elle soit enfermée pendant 7 jours, mais Dieu l'a guéri. Nombre chapitre 14, verset 10. Les 12 espions. Et là, nous voyons un deuxième cas de figure où Dieu voulut éliminer Israël. Nombre chapitre 14, verset 10. Moïse avait une grande responsabilité et Moïse était conscient de sa responsabilité. Il voulait vraiment aider, il voulait faire tout ce qu'il pouvait faire. Nombre chapitre 14, verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Deuxième cas de figure, il est question de détruire le peuple d'Israël. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Il n'y avait pas d'égoïsme de cette façon-là chez Moïse. Non, il voulait aider. Verset 13, Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront. Et donc il commence à dialoguer avec Dieu. Bon, Dieu savait bien sûr ceci. Mais Moïse parle des répercussions pour y avoir. Verset 13, Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux, du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparaisses visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui. Mais on voyait que c'est un langage détaillé. Il intervient, il implore Dieu, et il détaille un certain nombre de choses. Que ta nuée se tient, au milieu de verset 14, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour sur une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Il parle de la réalité de la situation et ce que Dieu fait. Verset 15, si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans la paix qu'il avait juré de lui donner, c'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Et donc, il parle de la situation, il parle des répercussions peut-être possibles. Et à partir de verset 17, il y a, si je peux dire, un changement de langage. À partir de verset 17 jusqu'au verset 19, à la fin de verset 19, il évoque le caractère de Dieu. En implorant, et quand nous prions, quand nous intervenons pour quelqu'un, quand nous faisons prier l'intercession pour quelqu'un, nous pouvons parler à Dieu de sa bonté, de son caractère. Et c'est ce que vous trouvez, verset 17. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. La bonté de Dieu, que Dieu est lent à la colère. Bon, ici, c'était Dieu était en colère. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. On demande à Dieu d'intervenir. Et on peut évoquer à Dieu, on peut parler à Dieu de sa miséricorde, de sa bonté, de sa grandeur. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Donc la puissance, la grandeur, que Dieu est lent à se mettre en colère, que Dieu est bon, qui pardonne, et que Dieu est miséricordieux. Deuxième, un autre cas de figure, Nombre chapitre 16, là aussi nous sommes familiers, c'est la rébellion de Corée. Dieu parlait de consumer l'assemblée. Et Moïse et Aaron sont intervenus. Troisième cas de figure qui est mentionné donc, où Dieu parlait de détruire. Et puis vous avez les serpents brûlants, dans Nombre 21. Et avec les serpents brûlants, c'est le peuple qui a demandé à Moïse d'intervenir, de prier. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Donc Moïse intervenait beaucoup. Moïse intercédait pour le peuple et Dieu écoutait Moïse et Dieu répondait aux prières de Moïse. Il y a un autre grand homme de Dieu, c'est Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 7, nous voyons que Samuel aussi avait à cœur de prier pour son peuple. 1 Samuel chapitre 7 et le verset 2. Ici, c'est un contexte intéressant parce que ça n'arrivait pas très très souvent, mais ici, les enfants d'Israël étaient de bonne disposition. Enfin, ils avaient changé de cœur et sont redevenus dans de bonnes dispositions. Verset 2. 1 Samuel chapitre 7, verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jérim. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussait des gémissements vers l'Éternel. Ils commençaient à souffrir. Et verset 3, Samuel dit à, parce qu'ils étaient maintenant bien disposés, verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre côur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, mais il vous délivrera de la main des Philistins. Dialogue donc, rapprochement, pas uniquement du peuple vis-à-vis de Dieu, mais aussi du peuple vis-à-vis de Samuel. Verset 5. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. C'était un homme de Dieu, il allait prier pour eux, et ils s'assemblaient à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau, et ils la répandirent devant l'Éternel. Moi, j'ai vu un commentaire qui disait que c'était de toute évidence, le fait de répandre de l'eau, c'était de toute évidence symbolique, le fait de déverser son cœur, pour ainsi dire, en se repentant. C'était symbolique. Verset 7. Le Philistin apprirent que les enfants d'Israël étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël, leur ennemi héréditaire, situation difficile. Il y avait un juge en Israël à l'époque, ici c'était Samuel, et il y avait une réaction donc contre le juge et les enfants d'Israël. À la fin de verset 7, à cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel. » C'est eux qui demandaient. Il y a une autre traduction qui dit ceci, « Ne nous refuse pas d'implorer l'Éternel, notre Dieu. » Notre Dieu. Ils s'étaient rapprochés de Dieu. Dans le verset 6, c'est ce qu'on voit. Ils jeûnaient ce jour-là. Donc, c'était notre Dieu pour qu'il nous sauve de la main des Philistins. Ne cesse point, verset 8, donc, ne cesse point de prier pour nous à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait, il offrait tout entier en holocauste à l'Éternel, il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Et les circonstances étaient réunies. Le peuple était bien disposé à ce moment-là vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Samuel. Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Pas besoin de se battre. C'est Dieu qui est intervenu. Et il est mis en déroute. Il fut battu devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Gar. Dieu est un Dieu de miracles. Quelques temps après, vous savez, la situation n'a jamais été statique en Israël, pas plus que cette statique pour nous. Alors, chapitre 8, et le verset 5, il y a maintenant certaines années qui ont passé. Chapitre 8, et le verset 5, il lui dit, voici, tu es vieux. On parle à Israël qui parle, les anciens d'Israël qui parlent à Samuel. Il lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Et c'est le verset 5, c'est ironique parce que Israël était censé être un exemple pour les nations autour. Et ici c'est les nations autour qui ont influencé Israël et qui ont rejailli sur l'attitude. Et ils voulaient faire comme les autres. Oh. Et Dieu n'a pas voulu ça à l'origine, Dieu a voulu le contraire. Verset 6. Samuel lui avait déplaisir et qui disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Samuel était triste. mais il avait toujours à cœur de dialoguer avec Dieu. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour le juger, pour nous juger. » Et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette afin que je ne règne plus sur eux. » Verset 18. Et alors vous crierez, Samuel les a mis en garde. Et Samuel dit, et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. On contraste ceci avec ce que nous venons de lire dans chapitre 7. Changement de disposition, changement d'attitude. Le peuple refusait d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Dieu aurait pu intervenir, bien sûr, s'il avait fait confiance à Dieu. Il voulait être comme les autres. Mais c'était Dieu le roi, en réalité. Chapitre 10, verset 17. Chapitre 10 et le verset 17. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah et dit aux enfants d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait monter d'Égypte Israël et je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, oui, comme la disposition n'était plus la même. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus, selon vos milliers. Et ils ont demandé un roi. Dieu leur a donné un roi. Chapitre 12, verset 1. Chapitre 12, verset 1. Samuel n'a pas changé. Samuel est resté en contact avec Dieu, en contact étroit. Chapitre 12, verset 1. Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai écouté votre roi dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Verset 3. Me voici, rendez témoignage contre moi. Le verset 3 est intéressant parce que ça montre le caractère de Samuel qui était intègre. « Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour le vin pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. » Non, Samuel est resté intègre et il avait la sollicitude pour son peuple comme Moïse, le zèle, et de l'amour pour le peuple de Dieu. Verset 6. Bon, ils n'ont dit rien, ils n'ont rien trouvé. Verset 6. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Il commence à détailler leur histoire, parce que Dieu est intervenu. Dieu, bien sûr, ne change pas. Verset 12. Puis voyant que Nachak, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Ils ont dit non. Ensuite, verset 16. Verset 16. Dieu est toujours en charge. Dieu peut intervenir à tout moment. C'est ce qui s'est passé ici. Verset 16. Attendez encore ici. Et c'est Samuel qui parle. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sur vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, il enverra des tonnerres et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Et Dieu est intervenu. Samuel était proche de Dieu, verset 18. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour des tonnerres et de la pluie. Et tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et regardez, voilà verset 19. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions pas. Il demandait une prière d'intercession. Il demandait que Dieu prie pour eux. Car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Et verset 20, et Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après des choses de néant. Verset 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Et là, nous voyons la portée d'une prière d'intercession. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour nous. Il voulait qu'il intercède et ça donne la portée d'une prière d'intercession. Lui qui était un prophète de Dieu, il les a mis en garde. Verset 24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous, mais si vous faites le mal, vous périrez à vous et à votre roi. Deuxième exemple, donc, où on voit la prière d'intercession et on voit la force, la puissance d'une prière d'intercession. Troisième exemple, dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2 et le verset 1. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, pour qui parle, des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Il y a une introduction qui le rend comme ceci, ce premier verset, dans le Darby précisément, des supplications, des prières, des intercessions, et des requêtes sont aussi des intercessions. Et le sens du mot intercession, traduit dans le second par requête, c'est supplication. Supplication est traduit, ça peut être traduit, comme je dis, par intercession. Mais là, de nouveau, on voit la portée de la chose, l'importance d'une prière d'intercession, parce que c'est marqué au début du verset 1, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes ou des intercessions, avant toute chose. Et pas uniquement est-ce que c'est avant toute chose, mais c'est marqué aussi, toujours dans le verset 1, pour tous les hommes. Pour tous les hommes, il y a des drames dans le monde. Il y a des gens qui sont touchés, qui souffrent, que ce soit des attentats. Je crois que c'est M. Franks qui parlait de prier pour les gens qui pleurent leur mort lors des attentats. Parce que la Bible parle de prier, d'intercéder pour tous les hommes. Même des gens qui connaissent pas encore le plan de Dieu. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. De prier pour nos dirigeants et de prier pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, donc pour notre bénéfice aussi. Verset 3. Toujours le même sujet. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc Dieu, Paul précise que c'est bon, c'est agréable, c'est donc important. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le dessein de Dieu, et c'est donc lié, le fait de prier de cette façon-là, est lié au dessein de Dieu. Verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur, le Christ, entre nous et Dieu, qui intercède pour nous, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et puis le verset 8, il revient donc par rapport à ce qui, Paul revient sur tout ce qu'il a, par rapport à ce qu'il a dit au préalable. Verset 8, je veux donc que les hommes, puisque tout ceci est vrai, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Évidemment, quand nous prions pour quelqu'un, quand nous intercédons pour quelqu'un, il convient de le faire avec des mains pures, avec un cœur pur, que ce soit des sentiments purs quand nous prions pour quelqu'un. Si nous sommes en colère contre quelqu'un, si nous sommes fâchés, comment voulez-vous que Dieu écoute nos prières quand nous cédons? Donc de prier avec un cœur pur, avec des sentiments purs. Et quand vous regardez les hommes de Dieu, là je vous ai montré deux hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, mais quand vous regardez les hommes de Dieu, ils priaient beaucoup, ils suppliaient beaucoup. C'était leur caractéristique, que ce soit pour quelqu'un, que ce soit pour un peuple, que ce soit pour d'autres. Job a prié pour ses trois amis, et Dieu est intervenu quand Job a prié pour ses amis. Quelqu'un qui se tient à la brèche. Et quelqu'un, quand il y a une brèche dans un mur, c'est très mauvais, parce que tout peut tomber. Et qui est-ce qui... Mais en ce qui nous concerne, qui est-ce qui intercède sans cesse pour nous? Qui est notre modèle parfait? Qui a prié pour Pierre? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Bien sûr, c'est le Christ. Et nous avons un modèle, c'est le Christ. Et nous avons un modèle parce que le Christ intercède pour nous sans cesse parce que nous, on pêche. On pêche de temps à autre. Hébreux chapitre 7, verset 25. Et c'est le travail du Christ d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Satan nous accuse, et le Christ intercède pour nous auprès de son Père. Et le Christ est à la droite de son Père. Il est juste là à la droite, et Dieu l'écoute. Dieu entend. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. Le Christ est ressuscité, le Christ est vivant, et le Christ fait quelque chose actuellement, il intercède pour nous. Sauvé parfaitement, dans le Darby, c'est marqué entièrement. Entièrement, dans le Shoraki, c'est marqué en totalité, parce que nous ne sommes pas encore dans le royaume, et dans le Martin, c'est marqué pour toujours. Mais Jésus-Christ est notre avocat. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Il est notre défenseur. C'est un processus. Et si nous péchons, nous avons un avocat, nous avons un défenseur auprès du Père. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Et comme je dis, le Christ est aussi notre exemple. Comme le Christ intercède pour nous, il convient que nous intercédons pour nos frères et pour d'autres. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Pour que le Christ intercède pour nous. Il veut nous sauver. Et il y a un dialogue donc qui s'effectue entre le Christ et son Père. Son Père est toujours à l'écoute. Du reste, si vous lisez la fin de verset 1, ce que nous venons de voir, 1 Jean chapitre 2 verset 1, c'est marqué Jésus-Christ le juste. Et c'est parce qu'il est juste, parce qu'il est auprès de son Père, que son Père l'écoute. Nous sommes contents que le Christ intercède pour nous. Et quand nous intercédons pour quelqu'un d'autre, peut-être si la personne le sait, la personne aussi peut être contente. Mais nous avons, on vient de voir le mot juste tout à l'heure, et nous avons aussi une responsabilité quand nous prions, quand nous intercédons pour quelqu'un. La responsabilité consiste à être assez proche de Dieu par notre comportement. 1 Jean 3, 21, 22. Nous le recevons de lui quand on demande quelque chose parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Dieu écoute. Et c'est donc plus que le fait de demander, d'intercéder pour quelqu'un. C'est biblique. Mais quand nous intercédons, il devait y avoir plus que le fait de demander simplement. C'est que nos vies devaient plaire à Dieu. Si on veut vraiment intercéder, si nous voulons vraiment que Dieu écoute, parce qu'après tout, c'est ça, intercéder. Si nous voulons vraiment que Dieu écoute, il faut également un certain comportement. Nous prions tous les jours, je pense. Nous louons Dieu. Nous remercions Dieu. Et probablement, c'est pas trop difficile de louer Dieu ou de remercier Dieu parce qu'il y a tellement de choses pour lesquelles on peut louer Dieu et pour lesquelles on peut remercier Dieu. Mais quand il s'agit d'implorer Dieu pour quelqu'un, une prière d'intercession, la situation d'un frère qui est dans une difficulté, là, on est obligé d'y penser. On est obligé de réfléchir à la peine, exprimer l'amour, et de faire un effort, de vouloir vraiment que la personne, que ce soit guérie, que ce soit parce que la personne traverse une épreuve. Nous sommes familiers avec le passage dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. Matthieu chapitre 7, et le verset 12. Ceci rejoint, enfin, c'est le contraire. Ce que vous voyez au fond de la salle, que vous pouvez lire après, rejoint plutôt ici dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et quand nous souffrons, quand nous sommes malades, quand nous avons des difficultés, nous avons des épreuves, quand nous sommes découragés, nous voulons bien que les gens prient pour eux. Et donc, pour employer ce verset biblique, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi des prophètes, de faire aux autres ce qu'on voudrait que les gens fassent pour nous. D'expliquer en détaillant la situation d'un frère, ses souffrances, ses difficultés, son épreuve, que c'est dur, que c'est particulièrement difficile pour lui, de rappeler peut-être à Dieu la fidélité de cette personne pour qui nous prions, de rappeler par où il est passé et par où il passe. Et puis il y a un autre aspect, je disais tout à l'heure qu'il fallait que, bien sûr, nous avons la responsabilité d'être suffisamment proche de Dieu quand nous intervenons pour quelqu'un, quand nous prions pour quelqu'un, une prière d'intercession. Et puis, il y a un autre aspect qui est bien sûr non négligeable, c'est la foi. Nous devons vivre par la foi et d'avoir la foi quand nous prions que Dieu écoute. Après tout, si c'est uniquement par devoir, si c'est uniquement parce qu'on pense que c'est la chose à faire, d'avoir vraiment la foi que Dieu écoute, que Dieu entend et que lorsque nous prions, que ça fait une différence. Parce qu'après tout, sinon, pourquoi prier ? De vraiment croire que ça fait une différence et de prier avec notre cœur. On fait appel à un Dieu d'amour qui est concerné par chacun de ses enfants. Et la personne prie peut-être pour elle-même, c'est normal, mais on ajoute à ce moment-là nos prières aux prières de la personne. Et tout ça dans le contexte de la volonté de Dieu. C'est un privilège immense de prier. C'est vraiment un immense privilège de se mettre à genoux devant le trône de la grâce Parce que Dieu est un Dieu qui est bon. Dieu, le trône de la grâce est un trône où on trouve la miséricorde de Dieu. Et quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est dans la difficulté, c'est le plus beau cadeau certainement qu'on peut faire, c'est de prier pour cette personne. Prier pour cette personne, mais avec notre cœur. Et prier pour cette personne, comme si c'était prier pour nous, quand nous sommes malades, ou quand nous avons une épreuve, que nous avons une difficulté. De prier vraiment, comme si c'est nous. La personne qui a peut-être des soucis, des problèmes, quelle que soit la chose, de prier pour cette personne. Et, inévitablement, ça ne peut que nous faire du bien. On ne le fait pas pour ça, mais inévitablement, quand on prie, nous avons les yeux sur la personne et c'est un don, quelque chose qu'on peut donner à la personne.